Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yannick Trigance, conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national du Parti Socialiste en charge de l'école, du collège et du lycée. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous allons parler tout à l'heure des annonces faites ce mardi par le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Mais d'abord, Yannick Trigance, dans le journal Le Monde, vous publiez une tribune sur la mixité scolaire et vous écrivez que mettre dans les mêmes classes des enfants issus de milieux différents est la meilleure manière de créer du commun. Avant d'évoquer finalement les moyens que vous envisagez, d'abord, pourquoi est-il nécessaire d'aborder cette question aujourd'hui ? Pourquoi faut-il de la mixité sociale à l'école ?
Il faut de la mixité sociale à l'école. Que c'est, pour nous en tout cas, le type de société que l'on souhaite, c'est-à-dire une société dans laquelle chaque enfant, chaque jeune se construit dans ce que l'on appelle l'altérité, dans la différence, parce que nous avons besoin de cette altérité et de cette différence pour pouvoir finalement vivre ensemble, et c'est ce que j'explique dans ma tribune, puisque la France, malheureusement, est l'un des pays où l'origine sociale pèse le plus dans la réussite des élèves. Et donc, il y a un risque aujourd'hui très fort de la mise en place d'une forme d'entre-soi, où finalement, des enfants grandiraient sans se connaître, et on aurait des adultes qui vivraient les uns plus tard à côté des autres, sans jamais finalement s'être rencontrés. Et si nous ne prenons pas garde, eh bien c'est le type de société vers laquelle nous dérivons. Et c'est pour cela que dans cette tribune, j'ai attiré l'attention sur cette question qui est une question qui dépasse la seule question de l'école, mais qui encore une fois correspond au type de société que l'on veut pour aujourd'hui et pour demain.
Yannick Trigance, quelle politique publique pourrait être mise en place pour favoriser cette mixité sociale à l'école ? Est-ce qu'il faut changer la carte scolaire ? Faut-il imposer un certain nombre d'enfants boursiers dans les lycées les mieux cotés ? Est-ce qu'il faut créer au contraire des spécialités attractives dans les lycées des quartiers défavorisés pour que des enfants plus favorisés viennent s'y inscrire ?
Je pense qu'il faut déjà que l'on regarde les territoires sur lesquels des choses intéressantes se passe dans ce domaine-là. Je prends un exemple. Vous avez la question de ce qu'on appelle les binômes de collège, c'est-à-dire que c'est des dispositifs qui sont mis en place, et d'ailleurs qui ont été mis en place sous Najat Vallaud-Belkacem, et qui visent à mixer les cohortes d'élèves qui arrivent de CM2 dans des collèges qui sont géographiquement proches, mais dont la composition sociale diffère fortement. Et donc cette idée de répartir chaque année équitablement ces élèves dans un ou un autre collège à proximité, ça fonctionne. C'est le cas à Toulouse, par exemple, c'est le cas à Paris. Et le bilan est, somme toute, très positif. Donc je pense que le ministre aurait tout intérêt à développer ce type de dispositif. Ensuite, il y a effectivement, vous l'évoquiez, la question d'un certain nombre de filières d'excellence, entre guillemets, des sections internationales, bilingues ou artistiques, qui peuvent être mises en place dans des établissements défavorisés. Ça peut être intéressant, mais là, j'attire l'attention. Il faut faire attention, précisément, à ce que, dans un établissement, lorsque vous avez de la mixité sociale, c'est-à-dire lorsque vous avez une diversité sociologique des élèves, il faut faire attention à ce que l'établissement ne fabrique pas lui-même une forme de séparatisme. Je vous donne un exemple. Il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui dit que dans 45% des collèges, il y a une forme de séparatisme social. C'est-à-dire que c'est la structuration pédagogique des établissements qui crée finalement un tri, une séparation entre les élèves avec des sections bilingues ou artistiques. Donc là, il faut faire attention à ne pas finalement créer un séparatisme alors qu'il y a pourtant une diversité sociologique dans le collège. Et puis, troisième élément sur lequel il faut que la puissance publique intervienne à mon sens, et c'est ce que j'indique dans la tribune, c'est la question de l'enseignement privé. Puisque, vous le savez, l'enseignement privé, il est quand même financé à 73% par de l'argent public. Or, l'enseignement privé n'est soumis à aucune contrainte quant au recrutement des élèves. Et donc là, il y a certainement à réfléchir. Le ministre dit on va obliger les établissements à participer à cette mixité sociale. Il se trouve que d'un point de vue juridique, le ministre pourra, ça va être compliqué parce que chaque établissement fait comme il veut. Et donc cette question-là, elle doit être aussi mise en débat par rapport à l'enseignement privé et qu'il faut réfléchir à des pistes, c'est-à-dire eh bien regarder les indices de position sociale, vous savez, les IPS dont on parle beaucoup ces derniers temps, et prévoir, à mon sens, finalement, des dotations qui correspondent au taux d'élèves défavorisés, par exemple, scolarisés dans des établissements. Il faut aussi travailler avec l'éducation nationale, comme ça s'est fait à Toulouse, avec les collectivités locales, avec l'éducation populaire, et surtout mettre en œuvre ce que j'appelle une démocratisation de l'excellence qui ne soit pas réservée à quelques-uns au détriment des autres.
Yannick Trigance, est-ce que le service national universel, le SNU, défendu par la ministre Sarah El Haïry, peut être un moyen de favoriser finalement cette mixité sociale, en tout cas durant les 12 jours que durent ces stages de cohésion?
Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. D'abord, très franchement, 12 jours dans la vie d'un jeune, c'est vrai, pour travailler les questions de mixité sociale, c'est quand même un petit peu juste. Moi, je pense que c'est au sein des établissements scolaires que ce travail de mixité, ce travail de découverte de l'autre, précisément, doit se faire. Hein. C'est le sujet qu'on évoque depuis notre entretien. Je pense aussi qu'il y a une question financière. Vous savez que de ces 12 jours que vous évoquez, représente un coût pour la société de 3 500 € par jeune. Il faut savoir que le coût d'un élève pour toute une année dans l'enseignement primaire, c'est 7 500 €. Donc toute une année scolaire, 7 500 € et 12 jours seulement, 3 500 €. On voit donc qu'il y a là un problème financier qui est somme toute assez important et que ce serait, à mon sens, dilapider de l'argent public dans un dispositif qui, très franchement, n'a pas encore fait ses preuves aujourd'hui. Vous savez aussi qu'il y a un pourcentage important de jeunes qui, dans ces stages, sont déjà issus de familles dans lesquelles, par exemple, un des parents porte l'uniforme. Dernier élément, ça n'est pas au moment où l'on dit que les enfants ne passent pas suffisamment de temps à l'intérieur des établissements scolaires, puisque l'année scolaire a encore été raccourcie, ou en tout cas, elle n'arrive pas à aller jusqu'à la fin du mois de juin. Les enseignants sont très inquiets que l'on enlève les élèves de l'école pour les mettre 12 jours dans des centres pour ce stage.
Yannick Trigance, ce mardi, Pap Ndiaye a annoncé une revalorisation des salaires des enseignants de 10% dès septembre 2023. Selon le ministre de l'Éducation, le salaire des enseignants ne sera pas inférieur à 2 000 € en début de carrière. Il y aura également une prime pour les enseignants qui s'engagent à effectuer de nouvelles tâches. Comment accueillez-vous ces annonces?
Écoutez, moi, ce que je regarde et ce que j'entends, c'est que l'ensemble des organisations syndicales ont claqué la porte de cette discussion lorsque le ministre a fait ces propositions-là. D'abord, je voudrais rappeler que en 1980, un enseignant certifié, donc un professeur en début de carrière, en 1980, touchait l'équivalent de 2,2 SMIC. Aujourd'hui, en 2023, il touche à peine 1,2 SMIC. Donc la perte du pouvoir d'achat des enseignants depuis ces années est absolument phénoménale. Surtout lorsque l'on sait que les enseignants français travaillent 900 heures par an, alors que leurs collègues européens en moyenne travaillent 700 heures par an. Donc en fait, les enseignants français sont ceux qui travaillent le plus en Europe et ce sont ceux qui gagnent le moins. Et donc aujourd'hui, la situation, elle est connue. Les enseignants aujourd'hui sont déclassés, sont dévalorisés, sont déconsidérés, sont déqualifiés et le système a atteint un niveau de déshumanisation extrêmement important. Et que les propositions du ministre, franchement, demander aux enseignants de travailler plus pour gagner plus, parce que c'est ça finalement la réalité, c'est-à-dire qu'il faudrait que des enseignants, notamment ceux du premier degré, pour pouvoir gagner un peu plus, travaillent plus, c'est-à-dire qu'ils aillent intervenir en sixième pour faire du soutien ou une heure de français ou une heure de maths, encore faudrait-il qu'ils puissent se déplacer en collège en plus le midi, c'est-à-dire en dehors de leur temps. Il faudrait ensuite qu'ils fassent des remplacements, mais les remplacements pour les professeurs, c'est très compliqué, parce que lorsque vous prenez une classe que vous ne connaissez absolument pas et qu'on vous demande au pied levé d'aller remplacer une heure un collègue, on voit bien la difficulté. Et puis, le troisième élément, c'est d'encadrer ce qu'on appelle les devoirs faits. Or, les devoirs faits, le ministre veut les généraliser à tous les élèves, alors que les organisations d'enseignants disent bien que tous les élèves n'ont pas besoin de rentrer dans ce dispositif devoirs faits. Donc, ces mesures qui sont proposés par le ministre ne correspondent pas aux attentes des enseignants, qui sont sous-payés, qui sont dévalorisés, qui d'ailleurs ont décroché par rapport aux autres fonctionnaires d'État en France depuis un certain nombre d'années et qui ont décroché aussi par rapport aux autres pays occidentaux. Donc les propositions du ministre ne correspondent pas aux attentes et aux besoins des enseignants qui ont d'abord et avant tout besoin d'être revalorisés sans rien leur demander comme mission supplémentaire parce qu'ils travaillent déjà beaucoup pour un salaire qui est, somme toute, extrêmement modeste.
Vous nous confirmez que le nombre de candidats au concours dans l'enseignement continue de baisser ?
Absolument. Le nombre de candidats au concours ne cesse de baisser. Et cela renvoie donc à la fois d'ailleurs dans le premier degré comme dans le second degré, c'est-à-dire les enseignants de maternelle, d'élémentaire, comme les professeurs en collège et en lycée, et cela renvoie à un déficit d'attractivité du métier. C'est d'ailleurs, je pense, un des grands défis de notre société aujourd'hui, c'est le défi du déclassement des enseignants, et c'est pour cela que je pense qu'il y a nécessité à rendre le métier attractif. Il faut réussir à recruter, il faut réussir aussi à former, parce que il y a bien sûr la question de la revalorisation salariale, mais aussi la question de la formation initiale, mais aussi la formation continue. Et puis, il faut réussir aussi à faire ce que ces enseignants restent dans la profession. Vous savez que le pourcentage d'enseignants qui quittent l'éducation nationale, donc des démissions, a tendance à augmenter de manière assez inquiétante.
Yannick Trigance, un débat a été organisé au Sénat sur le harcèlement scolaire ce mardi. Pap Ndiaye annonce que le dispositif qui vise à lutter contre le harcèlement va être généralisé au lycée après l'avoir été à l'école et au collège. Par ailleurs, le ministre veut rendre possible, via un changement réglementaire, l'exclusion d'élèves harceleurs avec l'accord des maires et indépendamment de l'avis des parents. Est-ce que ce sont des annonces auxquelles vous souscrivez ?
Sur l'idée de généraliser les dispositifs de lutte contre le harcèlement, oui, bien évidemment. Je pense que tout ce qui peut être mis en place doit être mis en place à tous les niveaux du système éducatif. Après, très objectivement, moi je pense que on n'arrivera pas à résoudre ces difficultés-là si on n'a pas les parents avec nous. Et donc, je pense que tout ce qui exclut les parents de ces dispositifs de consultation, d'écoute, je pense que ça n'est pas une bonne chose. Je reste assez sceptique parce que je pense que les parents ont toute leur place dans la boucle éducative et qu'il y a nécessité à travailler avec et non pas contre les parents. Donc je suis assez sceptique sur la mesure par rapport aux parents.
Le syndicat SNES-FSU annonce que 2265 fermetures de classes pour la rentrée scolaire sont prévues. Est-ce que ces fermetures sont justifiées ?
Non, elles ne sont pas justifiées. Le gouvernement les justifie par un argument fallacieux à mon sens, qui est d'évoquer la baisse démographique au niveau des élèves. Bien sûr, il y a une baisse démographique dans le premier comme le second degré, donc qui est actuelle aujourd'hui, qui est incontestable et qui va durer. Mais ce que nous disons, nous, d'ailleurs comme le disent beaucoup de parents et d'enseignants et d'élus d'ailleurs, c'est qu'il faut profiter de cette baisse démographique pour améliorer le taux d'encadrement. Je rappelle que la France est un pays dans lequel le nombre d'élèves par classe est le plus élevé des pays de l'OCDE. Et donc, il faudrait profiter justement de cette baisse démographique pour non pas supprimer des postes d'enseignants, garder ces postes d'enseignants et diminuer les effectifs dans chaque classe, également mettre en place des postes qui ont été supprimés toutes ces dernières années d'enseignants qu'on appelle des réseaux d'aide pour les élèves en difficulté, les fameux RASD, donc avoir des enseignants pour le traitement de la difficulté scolaire. Et puis aussi, mettre en place des dispositifs tels qu'ils existaient auparavant, comme le dispositif plus de maîtres que de classes, où vous avez un enseignant supplémentaire dans une école pour intervenir aux côtés des enseignants dans les autres classes de l'école. Donc je pense que finalement, le ministre de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale fait des économies. Nous sommes malheureusement engagés via le président de la République dans une politique ultra-libérale qui vise finalement à instaurer toujours plus de compétition entre les élèves, entre les établissements scolaires, au détriment d'une qualité de l'encadrement de nos élèves qui ont besoin aujourd'hui d'être soutenus, d'être accompagnés, notamment celles et ceux qui sont le plus en difficulté.
Yannick Trigance, les élèves de terminale ont exprimé leurs vœux, comme chaque année sur Parcoursup. Est-ce que cette plateforme que vous avez souvent dénoncée s'est améliorée cette année ?
Écoutez, est-ce qu'elle s'est améliorée ? Je ne sais pas, je pense que les difficultés qui étaient constatées les autres années sont toujours présentes. J'en discute souvent avec à la fois des enseignants, des lycéens et des familles. Ce que l'on peut observer aussi, c'est notamment, une fois de plus, la pression qui est mise sur les élèves de terminale, puisque, vous le savez, ils viennent de passer les épreuves de spécialité très très tôt de l'année. Et que du coup, les enseignants n'ont pas pu, comme ils le souhaitaient, pouvoir terminer les programmes. Premier élément, c'est que du fait aujourd'hui de ce système-là, eh bien les enseignants, je discutais avec des enseignants il y a quelques jours encore, il y a une grande crainte de voir les élèves complètement démobilisés après ces épreuves de spécialité, puisque ils vont connaître là prochainement, demain d'ailleurs, les notes de leur spécialité, et que certains sauront qu'ils ont quasiment leur baccalauréat, quand d'autres sauront qu'ils n'ont aucune chance de l'avoir, et que dans les deux cas de figure, on risque d'avoir une déperdition d'élèves dans les établissements scolaires, et je pense que c'est tout à fait néfaste pour nos jeunes.
Dernière question politique, est-ce que la NUPES est dépassée ? Est-ce qu'il faut l'élargir pour espérer faire gagner la gauche lors de la prochaine élection présidentielle ?
Excellente question. Alors déjà, je voudrais quand même rappeler que, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, que s'il n'y avait pas eu la NUPES, et donc s'il n'y avait pas eu cet accord politique au moment des dernières élections législatives, il y aurait quasiment le double de députés du Front National à l'Assemblée nationale aujourd'hui, puisque précisément le rassemblement de ces forces de gauche, qui était d'ailleurs souhaité depuis longtemps par nos électrices et nos électeurs, a permis de faire barrage à l'extrême droite lors du deuxième tour et a permis d'avoir aujourd'hui une représentation telle que nous la connaissons de l'ensemble des partis de gauche. Je pense qu'il faut le rappeler, c'est important, parce que le Front National malheureusement est toujours là et on le voit bien dans les sondages qui sortent pour la prochaine élection présidentielle. Après, incontestablement, la NUPES doit évoluer. Et à l'intérieur de la NUPES, d'ailleurs, le fonctionnement de cette NUPES doit aussi évoluer, bien évidemment. Et donc, l'organisation de mon parti, le Parti Socialiste, à l'intérieur de cette NUPES, va continuer à travailler. Et il doit évoluer sur son fonctionnement, sur aussi les manières, la méthode de travail. Et les députés de ma famille politique, les députés socialistes, sous la houlette de Boris Vallaud à l'Assemblée nationale, et Patrick Kanner au Sénat, eh bien, mène ce travail pour faire entendre la voix des socialistes dans ce rassemblement de la gauche qui, à mon sens, ne doit pas être remis en question si on veut, lors des prochaines échéances, avoir une gauche rassemblée pour proposer un projet alternatif à celui de la droite et l'extrême droite.
Merci Yannick Trigance. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national du Parti Socialiste, en charge de l'école, du collège et du lycée. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.